Bonsoir à tous. Je vais faire l'appel. Alors, Monsieur Capot.
Présent.
Madame Giorgetti, représentée. Monsieur Jamme, représenté. Madame Cabas.
Présent.
Monsieur Chrétien.
Présent.
Madame Boutirol, représentée. Monsieur Depont.
Présent.
Monsieur Barrascud.
Présent.
Monsieur Baille.
Présent.
Monsieur Boyer.
Présent.
Monsieur Crespi.
Présent.
Madame Bombert, représentée. Monsieur Guédan.
Présent.
Madame Lagrifol.
Présent.
Monsieur Masson.
Présent.
Monsieur Raymond.
Présent.
Madame Rivangarigue, représentée. Madame Rochette.
Présente.
Madame Serre, représentée. Madame Thomas.
Présent.
Madame Tourolier.
Présente.
Monsieur Bourrelli, représentée. Madame Gelsomino.
Présent.
Monsieur Prosperi.
Est représenté. Pardon.
Représenté. Monsieur Bor.
Présent.
Madame Gola.
Représenté.
Donc le quorum est atteint. On va pouvoir délibérer. Alors, nous allons nommer un secrétaire de séance. Je vous propose pour ce soir Monsieur Christian Raymond. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Christian ? Christian Raymond ?
Oui, c'est bon, pardon.
Secrétaire adopté à l'unanimité, c'est bon. Alors, ensuite, nous allons valider le procès verbal du conseil municipal de la dernière fois. Avez-vous des remarques ?
Oui, s'il vous plaît.
Oui, je vous en prie.
J'ai deux remarques. La première concerne le non-respect du règlement intérieur. Oui. Lors du conseil municipal du 3 décembre 2020, nous avons voté ce règlement qui stipule article 5. Questions orales, les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil municipal des questions orales. Et à la fin, il est mentionné dans le compte rendu que vous nous avez soumis, qui est affiché et qui est sur le site de la commune. Il est indiqué donc le texte intégral des questions ainsi que la réponse y seront retranscrits. Or, si nous avons bien le compte rendu, les questions orales, il n'y a pas les réponses. Retranscrite, ça veut dire qu'elle devrait être indiquée. Voilà, donc je vous demande de faire observer le présent règlement. Merci. Deuxième remarque. Madame la maire, abuseriez-vous de vos droits ? Le fait au conseil municipal de stigmatiser certaines personnes interroge. Lors de deux conseils municipaux, du 3 décembre et le dernier, le 14 avril, vous en êtes pris à ma personne en dénonçant que j'avais été absent à des réunions de commissions municipales, l'urbanisme et culture, pour ne pas les citer. Vous avez également stigmatisé certaines personnes citées publiquement concernant la voie couverte qui a donné lieu à la réunion publique du lundi 20 juin. Je vous rappelle que le maire doit représenter tous les habitants de sa commune sans exception et sans distinction et que parmi vos devoirs de maire, vous avez celui du respect de la personne, de son honneur et notamment de la discrétion. En agissant comme vous l'avez fait, vous avez dérogé à vos droits et à vos devoirs et vous avez agi de manière discriminatoire. D'ailleurs, au lieu de vous occuper de nous, de l'opposition, vous feriez peut-être mieux de vous occuper des membres de votre équipe municipale d'abord. J'espère que vous prendrez acte de ces éléments et que vous cesserez ces attaques ad hominem qui n'ont aucun intérêt et sont indignes de la fonction que vous occupez. Merci.
Je vous remercie, M. Bord. Qui est contre le PV dernier conseil municipal.
Brigitte, pardon. Une autre remarque, je vais chercher le micro.
Bien sûr.
Oui, il s'agit juste d'une remarque, on en avait parlé pour mentionner, je pense qu'il s'agit du coup d'une erreur, de mentionner le motif pour lequel nous avons, par exemple, voté contre. Parce que ça nous a été... on a été questionné, par exemple, sur notre vote contre des subventions, par exemple, pour la classe verte, la classe de neige, pardon, en me disant, mais comment ça se fait que vous avez voté contre, alors que nous, notre vote, c'était plus sur le montant, des choses comme ça, mais pas, bien sûr, voter contre la classe de neige. Donc, même si on ne veut pas que ça prenne des places pas possibles, une phrase suffit largement, mais si on pouvait rajouter une motivation à notre vote dans le compte-rendu, ça permettrait de clarifier parfois les votes quand ce n'est pas évident le motif du vote. Voilà. Donc si c'est possible de rectifier, je pense que ça prend peut-être deux lignes, deux fois on a voté contre ou on s'est abstenu parfois, c'était plus une abstention. Voilà. Merci.
Qui est contre l'approbation du PV, qui s'abstient, adopté, donc à l'unanimité. Ensuite, nous allons voter l'ordre du jour. Il faut faire tourner. Donc l'ordre du jour, vous l'avez tous reçu. Est-ce que vous avez des remarques sur cet ordre du jour? Sinon, nous allons le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, au niveau de cet ordre du jour, on commence par des informations et il y a la réforme des règles de publicité des actes pris par les collectivités territoriales. Donc, tout cela va dans votre sens, justement, Myriam, puisque depuis octobre 2021, il y a eu un décret qui s'applique à partir du 1er janvier 2022, donc pas pour ce conseil, mais qui s'appliquera pour les conseils suivants. Donc, il y a différentes obligations maintenant qui ont changé, c'est-à-dire qu'il faut absolument que nous passions tout en dématérialisation, tout par voie électronique. Donc, aujourd'hui, nous avons ce décret qui est une réforme de simplification et de modernisation de ces actes administratifs. Dans ce décret, il est stipulé une suppression du compte-rendu des séances, et ce compte-rendu qui est affiché en mairie avec l'ordre du jour du conseil municipal sera remplacé par un affichage de la liste des délibérations qui seront examinées en séance. Exemple, délibération numéro 1... le premier de l'ordre du jour, convention de mise à disposition d'un conseiller numérique. Donc, il y aura cet affichage-là à la mairie. Donc, la liste des délibérations. Cette liste sera mise sur le site de la commune dans un format non modifiable, donc un format PDF. Ensuite, il y aura un PV qui sera signé uniquement, donc ce PV sera validé comme nous le faisons aujourd'hui au conseil d'après, et ce PV sera signé uniquement par le président de séance et le secrétaire ou la secrétaire. Ce PV, il est donc, c'est le même type de PV que nous faisions jusqu'à aujourd'hui, et il est mentionné en clair qu'il doit exister un résumé des opinions exprimées pour chaque point, l'ensemble des échanges n'étant pas imposé. Donc, nous allons faire ce que vous demandiez, Mme Gelsomino, nous allons faire une phrase pour chaque décision qui aura été votée et chaque discussion que nous aurons eue au sujet de cette délibération. Le procès-verbal sera publié sur le site Internet et un exemplaire papier sera obligatoirement mis à disposition du public s'il le demande à la mairie. Puis, sur le site, nous mettrons aussi la liste des délibérations avec les votes pour chaque délibération. Voilà, donc cette modification s'appliquera à partir du prochain conseil municipal. Ça, c'est le premier point, c'est la réforme des règles de publicité des actes. Derrière, se mettra en place aussi la dématérialisation des actes d'urbanisme. Ça sera mis en place en 2023. Ensuite, nous avons comme information, c'est l'information des marchés publics pour la salle de musique et la rénovation énergétique des écoles. Donc, pour la salle de musique, nous avons réuni une commission d'appel d'offres et nous avons validé les marchés en réunion d'appel d'offres. Donc, pour cette salle de musique, il y a 10 lots qui ont été acceptés. Roseuvre, charpente, couverture, revêtement de façade, menuiserie extérieure, intérieure, cloison doublage, plomberie, électricité, peinture et revêtement de sol. L'ensemble des offres négociées amène le total à 330 951,34 euros, soit TTC 397 141,61 €. À cela, il faut rajouter les missions de maîtrise d'œuvre pour un total de 59 754,40 € hors taxes, soit 71 705,28 TTC. Ça, c'est pour la salle de musique. Les travaux vont commencer au mois de juillet, si tout va bien. Ensuite, nous avons les travaux de la rénovation énergétique de l'école élémentaire. Cette rénovation donc va se dérouler en deux phases. Une phase 1 cet été avec la rénovation de 4 classes pour la somme de 555 517 € hors taxes. Sur ces travaux, nous avons obtenu une subvention de l'État de 300 000 euros pour cette année. Donc, nous avons aujourd'hui 255 000 euros comme part de la commune, sachant que la commune a aussi fait une demande de subvention au département et nous attendons la réponse. La deuxième phase se déroulera sur l'été 2023. Pour les 5 classes restantes et la salle polyvalente, pour un montant de 600 988 € hors taxes. Et bien entendu, l'année prochaine, nous referons une demande de subvention à l'État, subvention donc DETR, et nous essaierons encore de récupérer un petit peu de sous. Et nous redemanderons une subvention au département aussi. Voilà, donc vous avez eu tous ces marchés, vous avez vu tous les marchés qui ont été joints. Et donc, nous avons pour la rénovation de l'école, nous avons un total de 1 154 682 € hors taxes. Et donc, la phase 1, 555 517 et la phase 2, 600 988. Toutes les entreprises ont été choisies et nous avons déjà eu une réunion de chantier au sein de l'école. Voilà pour les informations. Donc un gros chantier qui commence. Hein, le déménagement des 4 classes a lieu vendredi prochain, 8 juillet. Vendredi 8 juillet. Nous avons donc un déménageur qui vient enlever tous les meubles, sachant que les enseignants, eux, auront mis tout ce qui est pédagogie, auront tout mis dans des cartons. Les déménageurs emmèneront les cartons faits par les enseignants et déménageront les tables, les bureaux, les tableaux, enfin voilà, tout ce qui reste dans la salle polyvalente, ça sera notre lieu de stockage pour cet été. Voilà. Donc, début des travaux lundi 11 juillet pour se finir normalement aux alentours du 22-24 août. En même temps, puisque je parle travaux, je vous rappelle que les travaux de l'allée des platanes qui sont faits par la régie des eaux, puisque c'est la réfection de la canalisation, commencent lundi 4 juillet et se finiront le 12 août. Pardon. Et derrière, il y aura la réfection de la voirie, plutôt vers la fin, vers le 25 août, parce qu'il faut attendre que les centrales de béton se remettent en route. Pas de béton, mais de goudron. De goudron se remettent. D'enrobé, voilà, vous cherchez d'enrobé. Les centrales d'enrobé se remettent en route, donc elles redémarrent vers le 22-23 août. Donc tout de suite derrière, ils viendront refaire la chaussée et permettre remettre en route la circulation. Voilà pour les points d'information. Après, à l'ordre du jour, donc nous avons le premier point, c'est la modification de la composition de la commission affaires sociales, enfance, jeunesse et seniors. Donc là, il y a eu un changement entre deux commissions. Donc Madame Gombert a quitté la commission affaires sociales, enfance, jeunesse, seniors et a été remplacée par Monsieur Chrétien. Donc je vous propose de valider ce changement. Donc dans la commission affaires sociales, nous avons aujourd'hui Madame Cabas, Monsieur Chrétien, Monsieur Crespi, Madame Rivin-Garrigue, Madame Gelsomino, Monsieur Borin Rochette. Qui est contre ce changement? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc Monsieur Chrétien, vous rejoignez la commission affaires sociales. La deuxième ordre du jour, c'est la convention de mise à disposition d'un conseiller numérique partagé entre la ville de Clapiers et Montferrier-sur-Lèze. Donc, nous avons travaillé avec Clapiers sur la mise en place d'un conseiller numérique au sein de nos deux communes, parce que nous avons jugé qu'il était important que cette fracture numérique dont tout le monde parle puisse se réduire petit à petit au niveau de nos différentes communes. Donc l'État aide les communes et nous a permis à Clapiers et nous-mêmes de bénéficier d'un agent qui a la formation numérique et qui sera donc proposé pour 2 ans dans nos communes. Nous avons vu avec Clapiers étant une commune beaucoup plus grosse que nous, Clapiers aura cet agent 60% du temps et nous l'aurons 40% du temps, donc 2 jours chez nous, 3 jours à Clapiers, et ce pendant 2 ans. L'État nous paie le salaire de cette personne pendant ces 2 ans et nous donne 50 000 euros maximum pour participer au salaire de cette personne, sachant que le salaire de ce conseiller numérique sera de 56 000 euros sur 2 ans. Prise en charge donc 50 000 euros par l'État, il restera 6 000 euros à la charge des deux communes, au prorata donc du nombre de jours effectués dans chaque commune. Donc pour Montferrier, ça nous coûtera pour 2 ans 2 400 euros. Donc nous avons évidemment accepté tout de suite cette proposition de Clapiers et il y a eu déjà des agents qui se sont présentés, il y a eu déjà un choix effectué par Clapiers et le dernier choix. Nous participerons à ce choix pour décider de l'agent qui viendra effectuer ses heures de formation numérique dans notre commune. Voilà, donc nous avons jugé que c'était très très intéressant. En attendant que cela se mette en place, aujourd'hui nous avons un bénévole qui forme les quelques Montferriérains qui se sont inscrits, c'est-à-dire 3 groupes de 4 et 5 personnes. À la bibliothèque et cette personne vient donc et voit avec chaque groupe la demande qui est faite le jour même. Alors dans ces groupes, vous avez un groupe qui est beaucoup plus fort et qui va beaucoup plus loin et puis vous avez un groupe qui est très faible, qui découvre l'ordinateur avec comment ça s'allume, les virus, comment on écrit un mail, le B.A.B.A. de l'ordinateur. Donc là aujourd'hui, il y a un bénévole qui assure ça à la bibliothèque et ça se passe très bien. Les personnes qui suivent ces cours sont enchantées. Voilà. Et dès l'automne, nous aurons ce conseiller numérique qui arrivera et que nous partagerons les cours.
Voilà. Oui, un ou deux compléments, s'il vous plaît. Quand est-ce que la personne payée, sur Clapiers-Montferrier arrivera?
À l'automne.
Et où sera-t-elle installée? C'est pareil à la bibliothèque ou...
Oui, je pense qu'on la mettra à la bibliothèque parce que finalement on s'est rendu compte que la bibliothèque était un endroit central dans le village avec pas mal de passages, donc cette personne se mettra à la bibliothèque. Parce qu'à la mairie, bon, c'est tout en haut, il faut y monter, c'est pas évident.
Merci.
Donc, vous avez d'autres questions sur ce conseiller numérique? Alors on va passer au vote, donc nous sommes obligés de voter la convention que nous allons faire avec Clapiers. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors le troisième,
nous allons attaquer toutes les conventions que nous allons établir avec la métropole. Et donc, je vais laisser M. Lafabrié vous parler de toutes ces conventions.
Alors, je vous rassure, sur le papier, ça fait beaucoup, mais je vais essayer de résumer ça en quelques phrases et après, nous ferons un vote formel sur chaque note de synthèse, chaque projet de délibération. Sur le principe, donc, on vous propose ce soir d'examiner l'adhésion à des groupements d'achat sur 5 thématiques. Première thématique, l'achat de matériel informatique et audiovisuel. Deuxième thématique, l'achat de logiciels. Troisième thématique, l'achat de mobilier de bureau. Quatrième thématique, la maintenance des matériels de protection incendie. Et cinquième thématique, la location de tentes, de bungalows et de toilettes autonomes. Vous verrez dans les notes explicatives et dans les projets de convention qui vous ont été communiqués que les groupements peuvent être constitués de différentes villes, de différentes communes. C'est pour ça qu'on a été obligé de faire une note explicative par groupement et que nous n'avons pas pu regrouper l'ensemble. En gros, l'idée de ces groupements, c'est toujours pareil, d'être à plusieurs pour être plus fort et pour tirer des prix le plus bas possible. Deuxième élément, c'est la ville de Montpellier Métropole qui porte tout l'aspect administratif et l'aspect du montage financier de ces groupements. Ça n'est pas supporté par nos services administratifs, ça n'est pas supporté par les communes. Donc c'est un avantage en termes de gain de temps, en termes d'économie sur tout ce qui est... Troisième élément favorable, c'est que en gros, nous n'avons pas d'obligation d'achat. C'est une opportunité qui est laissée à la commune d'acheter ou pas dans le cadre de ces groupements. C'est-à-dire que si nous trouvons une prestataire qui est moins cher, on a tout à fait loisir à aller acheter chez ce prestataire qui est moins cher. Cependant, si dans le tarif des BPU, on considère que pour une location de tente ou une location de toilette autonome, c'est plus intéressant d'aller vers ce groupement-là, on a cette faculté-là et on n'est pas freiné parce qu'on aura délibéré de manière favorable pour intégrer ces groupements. C'est pourquoi je vous propose de saisir cette opportunité-là, sachant que ce sera sur 2023 que les marchés seront lancés, enfin, fin 2022, début 2023, et avec une notification. Est-ce que vous avez des questions particulières avant qu'on attaque les votes de manière formelle sur chaque...
J'ai une petite question. Oui. Je regarde les différentes conventions. C'est vrai qu'il y a différentes communes, ce n'est pas tout le temps les mêmes communes. Comment ça s'explique en fait, je ne sais pas, parce que suppose que la métropole a demandé à toutes les communes...
Je vais être très franc, M. Bord. Ça s'explique par la volonté à la fois de l'exécutif, évidemment, et la volonté tout simplement des DGS d'intégrer, parce qu'il y a des réunions qui sont liées à ces groupements d'achat. Et après, voilà, c'est la volonté des DGS et c'est surtout le besoin de la collectivité. Voilà. Et ce qui est très surprenant, c'est que vous voyez, il n'y a pas les 31, enfin les 30 communes dans la métropole. C'est très surprenant. Voilà. Tout à fait. Mais à juste titre. Donc je vous propose, pour le formalisme, de voter sur la délibération numéro 3, qui est contre. Qui est pour votre unanimité ou oui, qui s'abstient. Alors, qui est contre, qui s'abstient pour la note de synthèse numéro 4 pour l'achat de logiciels, votre unanimité. Ok. Pour la note de synthèse numéro 5 pour l'achat de mobilier de bureau, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour votre unanimité. Pour la note de synthèse numéro 6, pour l'achat de fourniture de la maintenance des matériels de protection incendie, qui est contre, qui s'abstient, votre unanimité. Note de synthèse numéro 7, pour la location de tentes, de bungalows et de toilettes autonomes, qui est contre, qui s'abstient, votre unanimité. Je vous remercie.
Nous allons passer à la note de synthèse numéro 8, les subventions aux associations. Je vais laisser la parole à Madame Lagriffol, puisqu'elle est conseillère aux associations.
Merci. Cette année, il a été décidé donc de procéder d'une façon différente, c'est-à-dire que les associations devaient faire une demande officielle qui transmettait à la mairie pour toutes les demandes de subventions, que ce soit des subventions de fonctionnement, que des fonctionnements exceptionnels. Une date limite leur avait été fixée au 15 mars. Les dossiers ont ensuite été traités et un groupe de travail s'est réuni pour les étudier. Et ensuite, donc les différents montants ont été définis. Et donc, vous avez reçu parmi les documents de la note de synthèse un tableau qui répertorie donc les différentes subventions. Dans une première partie, vous avez les subventions de fonctionnement, et dans la deuxième partie, les subventions exceptionnelles. Je vais les lister. Donc, pour l'ACL, l'Association Culture et Loisirs, nous avons adopté le même montant qu'en 2021. C'est d'ailleurs la somme qui avait été demandée par l'association. En ce qui concerne l'association parents d'élèves, cette année, ils avaient demandé un montant supérieur et nous avons alloué donc 800 euros. Ados et enfants de Montferrier, une somme légèrement supérieure a également été allouée. Les anciens combattants, c'est le même montant qu'en 2021, 110 euros. L'aqueduc demande aussi une petite majoration, ce qui fait une subvention de 2000 euros. Pour la chasse, ils nous ont demandé un arrondissement pour la centaine d'euros supérieure, donc 500 euros. Le comité de jumelage, cette année, n'a pas fait de demande de subvention, puisque à cause de la Covid, il n'y a pas eu de manifestation et donc d'échange avec la commune suisse. On procédera à une subvention l'année prochaine. La crèche Les Câlins a sa subvention qui relève d'un conventionnement. Donc celle-ci ne subit pas de modification puisqu'elle relève de cette convention qui est de 65 000 euros. La crèche 1, 2, 3 Soleil, cette année, a fait une demande et nous avons accédé à cette demande pour un montant de 6 000 euros. Le SCM Foot a la même subvention que les années précédentes, c'est-à-dire 6 000 euros. La LIR, donc l'école de musique, a pu voir sa subvention augmenter conformément à sa demande à 3 000 euros. Les amis de la Chapelle de Bayargues, cette année, n'ont pas fait de demande parce que, du fait de la Covid, ils n'ont pas pu faire d'événements, donc ils n'ont pas eu besoin de subventions. Le club des anciens, Loufana-Bregou, a vu sa subvention légèrement diminuer parce que, effectivement, ils n'ont pas eu d'activité l'année précédente. Comme ils ont gardé donc la subvention, cette année, ils n'avaient pas besoin d'un montant aussi important. Au fil de l'art, cette année, n'a pas demandé de subvention, volontairement, pareil. La pétanque n'a pas fait de demande, également. L'association Saint-Étienne a été dissoute, donc il n'y a pas de demande de subvention. L'association SES Les Environnements n'a pas fait de demande cette année. L'association Taekwondo a une subvention de 1500 euros. Le Tennis Club, une subvention de 2700 euros. L'association Zonta, cette année, n'a pas fait de demande. Et effectivement, il n'y a pas eu de manifestation comme tous les ans. Cette manifestation a été virtuelle. Donc, il n'y a pas eu de... On passe maintenant aux subventions exceptionnelles. L'association Ados et Enfants de Montferrier a fait une demande pour disposer des balises supplémentaires sur son parcours d'orientation et pour afficher une cartographie donc pour le site qui est sur le parcours de santé. Donc nous accédons à sa demande pour 10 balises supplémentaires. L'association Aqueduc demande une aide pour l'organisation des pinèdes du Lez. Et l'association de chasse a fait une demande pareil, de subvention exceptionnelle pour améliorer la sécurité sur le site de Bayarguet afin de sécuriser l'activité de chasse en battue, donc avec la pose de nouveaux panneaux de signalisation et l'achat de 4 miradors. L'association de taekwondo demande une aide exceptionnelle pour l'achat d'un sac de frappe. Un sac de frappe, pour donner des coups de ça, en fait, parce que les leurs étaient fatigués. Le tennis club de Montferrier demande une subvention pour l'achat de balles. Comme il fait tous les ans, c'est une aide pour les tournois, parce que le club fournit les balles à tous les adhérents lors des tournois. Donc, le montant total des subventions s'élève donc à 82 310 euros pour les subventions de fonctionnement et 3570 pour les subventions exceptionnelles. On garde un total non affecté de 9120, dans le cas où il y aurait d'autres demandes de subventions exceptionnelles à voter dans l'année, puisque les subventions exceptionnelles peuvent être déposées tout le long de l'année. Ce total correspond au total général qui a été voté lors du conseil municipal du mois d'avril dans le budget donc, de 150. Voilà. Donc, c'est toi qui le dis, je ne sais pas. Si vous avez des questions, sinon on peut procéder au vote.
Oui, merci. Juste une petite question. Le SCM Saint-Clément-Montferrier, c'est 6 000 euros pour Montferrier et pour Saint-Clément. Vous connaissez le montant ?
3 000 euros.
3 000. Bien, il faudrait débaptiser et mettre Montferrier Saint-Clément quand même. Monsieur Raymond. Bon.
Après, il faut leur dire eux.
Oui.
Il faut leur dire eux. Il faut aller voir Madame Christophe.
Alors, elle n'est plus maire, je crois.
L'installation aussi.
Je crois qu'elle n'est plus maire. Elle a un autre mandat de député. Bien. Alors, d'abord, je voudrais remercier Eda, parce que nous avons avancé pour ce qui concerne l'attribution des subventions aux associations, puisque un travail a été mené, tu l'as souligné, avec un groupe de travail. Voilà. Cela, je dis, ne se fait plus de manière obscure et arbitraire, puisque vous avez mis en place ce groupe de travail et que nous avons eu 3 réunions, le 13 décembre, pour fixer des critères. Deuxième réunion le 22 avril pour l'attribution de ces subventions, dans le cadre de la somme affectée en conseil municipal le 14 avril, et vous avez ajouté une troisième le 9 juin, sans ordre du jour. Alors, afin de progresser dans la démarche entreprise, je voudrais faire quelques remarques. D'abord, dire que, comme nous l'avions décidé, je crois, nous sommes favorables pour discuter des subventions concernant les crèches, les calèmes et un de trois soleils, dans la commission du CCAS, et non plus avec les autres associations. Je crois que ça a été décidé. Hein.
Oui.
Cela, entre autres, fait baisser le budget destiné aux associations de 71 000 euros, c'est-à-dire 65 000 euros pour la crèche des Calais et 6 000 euros pour la crèche de Trois-Soleils. Ce qui m'amène à une autre remarque. Le montant destiné aux associations devrait tomber de ce fait, si on s'en tient au BP 2022, de 105 000 euros, subvention fonctionnement des associations, BP 2023, à 34 000 euros, 105 000, moins 71 000 en 2023. Le budget CCAS, par contre, bien sûr, devrait être revalorisé dans le BP 2023. Cela entraîne une autre remarque.
Nous aurons donc un budget relativement faible pour les associations, 34 000 euros, comparé notamment aux fêtes et cérémonies. J'ai regardé dans le BP 2022, il est de 120 000 euros. Nous demandons que pour 2022 soit précisé d'ailleurs le détail de cette somme destinée à chaque fête et cérémonie, comme cela est fait pour l'attribution à chaque association. Autre remarque. Si l'attribution des critères a bien été discutée lors de la deuxième réunion, pour les attributions, nous avons eu en main, le jour même de la réunion, deux tableaux. L'un concernant les subventions de fonctionnement et l'autre les subventions exceptionnelles. Comme chaque association avait rempli un questionnaire répondant aux critères sous-indiqués, nous avions également ces informations à la demande le jour même de la réunion. Nous vous demandons, afin d'examiner tout cela de manière plus sereine et juste, d'avoir ces documents, c'est-à-dire tableau de subvention et questionnaire par association, au moins 5 jours avant la date de réunion où est décidé le montant des subventions pour chaque association. Ensuite, la somme totale affectée aux associations se fait de manière péremptoire lors du conseil municipal qui traite le budget. Nous demandons que la discussion sur le montant global destiné aux associations soit l'objet d'une réunion qui précède le dit conseil municipal afin d'ajuster au mieux cette somme, non de manière aléatoire, mais de manière réfléchie entre les membres du groupe de travail. Enfin, dernier questionnement, se pose la question du montant de subvention octroyé à chaque association face aux dépenses occasionnées par chacune d'elles. Je m'explique. La plupart des activités associatives occupent une seule salle. De ce fait, la dépense n'est guère onéreuse. Par contre, certaines activités, je pense au foot, au tennis, la pétanque et bientôt l'école de musique, occupent un local pour elles seules et des terrains pour leurs activités. Les dépenses, notamment liées à l'éclairage, au chauffage, à l'eau, semblent importantes. Pourrions-nous d'ailleurs les connaître? Et de plus, ces activités ne touchent qu'une faible partie des Montferrérains. Si j'ai bien retenu, 148 adhérents sur 256 au tennis, soit 58%, 100 adhérents sur 577 au foot, au moins de 20%, etc. La question posée ici est, les habitants de Montferrier doivent-ils payer pour les autres communes? Autre point, les subventions à la mise à disposition de salles municipales sont-elles attribuées seulement à des associations? Il nous semble que certaines activités bénéficient de salles sans être portées par des associations, donc on peut dire à titre privé. Cela n'est pas acceptable. Il est également demandé que les salles soient laissées propres par l'activité ou la festivité qui s'y tient avant. Un rappel semble nécessaire. Merci. Ce sont les...
parler du don de 150 euros qui va être fait au niveau de à l'association Rire Clown pour enfants hospitalisés à laquelle en tant que mère et travaillant dans la santé je tenais absolument à faire un don parce que les clowns à l'hôpital pour les enfants hospitalisés je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour faciliter le séjour difficile de ces enfants. Donc nous ferons, ça ne sera pas une subvention, mais ça sera un don que nous ferons à cette association.
Est-ce que ça ne dépendrait pas aussi du CCAS? C'est une question. C'est...
Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est dans les subventions, donc ça restera dans les subventions pour cette année de support. Donc là, aujourd'hui, nous allons les voter. On les a votés? Non. Donc nous allons voter les subventions de fonctionnement d'abord, et ensuite les subventions exceptionnelles. Donc, au niveau des subventions de fonctionnement, donc pour la somme de 92 310, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. C'est bon. Donc, pour les subventions exceptionnelles, pour la somme de 3 570 euros, qui s'abstient, qui est contre, pardon, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Donc nous avons un total général de 105 000 euros qui est déjà inscrit, comme vous l'avez dit, M. Borg, au budget 2022. Et je vous remercie en tous les cas pour toutes les associations, parce que ces subventions leur permettent évidemment de bien fonctionner. Nous allons passer au point suivant, qui est le point sur la proposition d'emprunt que nous faisons cette année. Je laisse la parole à la Cour.
Oui, alors donc, quand nous avions voté le budget, je vous avais présenté un plan pluriannuel d'investissement. Donc on avait inscrit au budget 1 million d'euros d'emprunt et on avait prévu sur l'année 2023 500 000 euros supplémentaires compte tenu des importants projets que nous avons actuellement, dont nous avons vu en partie le coût pour la salle de musique et pour les écoles, mais il y a encore bien d'autres choses. Et donc, quand on a lancé avec M. Lafabrier la demande auprès des banques pour l'emprunt d'un million d'euros, il s'est avéré que est arrivée la crise inflationniste que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, les banques nous ont répondu extrêmement timidement en disant « Écoutez, pour l'instant, il faut attendre le mois d'avril parce qu'on ne peut pas vous garantir quoi que ce soit. » Il y a une banque qui nous avait proposé 750 000 euros je crois sur 15 ans avec un taux assez important. Et en définitive, le Crédit Mutuel, lui, a accédé à notre demande de nous octroyer 1,5 million à un taux de 1,3%, sachant qu'aujourd'hui on est au-delà de 2, et surtout sur une période beaucoup plus longue, puisqu'ils nous ont accepté sur 25 ans. Donc ce qui nous intéresse aussi, puisque c'est plus facile à amortir 1,5 million sur 25 ans que sur 15 ans. Voilà, donc du coup, on a pris la décision de vous proposer aujourd'hui de voter un complément d'emprunt, puisque les 1 million ont été votés au budget, donc ils ont été entérinés par la SAVE, quoi qu'il faut quand même délibérer, et de le porter à 1,5 million, parce que bon, 1,3% c'est un taux quand même qui est très intéressant, et on sait très bien que l'année prochaine, on risque d'avoir un taux beaucoup plus important, et que c'est dommage donc de le fractionner en deux. Voilà ce qui a motivé cette demande-là. Donc, l'emprunt, donc, c'est 1,5 million, 25 ans. Le taux, c'est 1,30. Le taux effectif global, c'est 1,31. Les fonds seront disponibles assez rapidement, mais on a jusqu'au 16 décembre pour les débloquer. Donc, ça veut dire que si on n'en a pas besoin, pour limiter les intérêts, on le débloquera que le 16 décembre. Hein. Les modalités de remboursement, c'est des échéances trimestrielles. On a 1500 euros de frais de dossier et il y a aussi pour un remboursement anticipé un taux qui était assez important. Alors on a essayé de le négocier, c'était non négociable. Parce qu'aujourd'hui, ils considèrent qu'ils nous font des conditions exceptionnelles et donc ils nous ont dit on ne peut pas faire plus. Voilà, donc on a essayé avec M. Lafabrier, mais de toute façon, je ne pense pas qu'on va rembourser ce taux, ce prêt par anticipation, parce qu'on va l'utiliser de toute façon. Et donc, voilà. Donc. Écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Sinon, que j'ai regardé un petit peu ce que ça représentait en remboursement. Donc, en remboursement, ça va représenter 4 échéances de 17 000 euros. Ça fait 70 000 euros. Donc, sur les années 2023, 2024, 2025, le capital de remboursement d'emprunt, il sera de 85 284 euros en 2023. Il tombe à 62 217 en 2024, à 54 784 en 2025 et 55 573 en 2026. Pourquoi ça? Parce que on a nos emprunts, vous savez qu'il nous restait 2 emprunts, qui viennent à échéance. Donc en fait, ça paraît important pour 2023, puisque ça représente quand même, avec les intérêts, 106 000 euros, mais on tombera après en annuité constante aux alentours de 73 000 euros, ce qui est largement supportable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On a essayé, on a posé la question, on leur a dit est-ce que vous acceptez de baisser ce taux parce qu'on le trouvait un peu important et nous en dit non. Je veux dire, c'était à prendre ou à laisser. Donc, ils n'ont pas voulu.
Après, ce n'est pas astronomique. 6 mois d'intérêt, ce n'est pas non plus des
sommes. Non. Mais c'était bien de le négocier, si tu veux. Donc, on a essayé. Voilà.
Oui, quelques remarques, même si Céline n'est pas là. Donc, elle s'excuse du système d'enterrement en région parisienne. La question, c'est, donc, d'abord, on emprunte, bien sûr, mais il me semble qu'il arrive tard, puisqu'on voit que les taux d'intérêt augmentent fortement, même si celui-là...
Monsieur Bourg, on ne peut pas demander des emprunts si on n'a pas, des investissements en face. Donc, les années précédentes, on n'avait pas de programme, on n'avait pas demandé, on n'avait pas à faire un emprunt.
Alors justement, il était prévu pour BP 2022 1 million et vous avez ajouté 500 000 euros. Est-ce que tu pourrais repréciser exactement pourquoi ces 500 000 euros supplémentaires ?
Parce que quand on a présenté le budget, j'ai présenté un plan pluriannuel d'investissement jusqu'à la fin du mandat, jusqu'en 2026, avec tous les investissements qui étaient projetés et les besoins dont on avait besoin. On a chiffré ce besoin en besoin de financement extérieur à 1,5 million. Et donc, c'est pour ça qu'on avait prévu 1,5 million, 1 million en 2022 et 500 000 en 2023. Donc, ça répond à un besoin par rapport à tous les projets qui vont être faits entre 2022 et 2026.
D'accord. Voilà. Autre question.
Avec une inflation à presque 6 aujourd'hui, c'est plutôt intelligent d'ajouter 500 000 euros, il me semble.
Oui, oui, mais les taux d'emprunt augmentent aussi.
Ah oui, mais vaut mieux aujourd'hui que dans un an.
Oui, tout à fait. Vous proposez aussi une proposition de financement de la part du Crédit Mutuel. La question que je pose, c'est est-ce que vous aviez demandé d'autres propositions ?
Oui, absolument. On avait vu la Caisse d'épargne, on avait vu le Crédit Agricole, le Crédit Foncier.
La Banque Postale, la Banque APL.
Et donc toutes les propositions étaient bien moins intéressantes que celles-là. Donc on a pris évidemment celle qui était la plus intéressante, c'est-à-dire les deux choses, le taux et la durée.
Merci.
Donc écoutez, je fais voter hein, cette proposition donc, de rajouter 500 000 euros. Donc c'est porter donc, le budget de 1 million, 1,5 million. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Alors évidemment, on va passer à la suivante. Donc, il faut ajuster le budget. Donc, le budget, ça c'est très très simple. Hein. Donc, on met 500 000 euros de plus en dépenses d'investissement au chapitre 23. Et en dépenses, on les met dans les immobilisations en cours non affectées. Hein, voilà. Donc, on aura l'équilibre. Donc, 500 000 euros en recettes, 500 000 euros en dépenses. Donc, ça permet d'équilibrer, de pouvoir surtout présenter la délibération pour obtenir le prêt, parce que la banque attend ça pour pouvoir nous l'octroyer définitivement. Non ? Il n'y a pas de question là sur ce point, qui est un point comptable hein, uniquement. Hein. Bon, voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Passer au point 11, l'atlas de la biodiversité. Donc la métropole a décidé de mettre en place, de créer un atlas de la biodiversité au travers de toutes ses communes. Donc elle a demandé à chaque commune de bien vouloir présenter ça en conseil municipal. Atlas de la biodiversité. Cet atlas de la biodiversité va être mené par l'Office français de la biodiversité, qui a lancé un appel à projet début 2022 pour développer cet atlas particulier de biodiversité dans chaque commune. Donc nous, par exemple, nous avons une certaine biodiversité au niveau du Lez, le long des berges du Lez. Nous avons énormément de choses à protéger. Au niveau de Bayardet, nous avons aussi différentes essences. Donc la métropole aujourd'hui se lance dans cette création de cet atlas qui va prendre plusieurs années. Il y aura différentes réunions qui seront organisées. Et aujourd'hui, la métropole nous demande son soutien, demande le soutien aux 31 communes de 3e pour mettre en place cet atlas de la biodiversité. Donc j'ai jugé qu'il était intéressant que la métropole crée cet atlas de biodiversité, et il était normal, et c'est pour ça que je vous le propose, de suivre la métropole sur cette, sur ce chemin-là, et donc de valider en conseil municipal de Montferrier l'accompagnement de la métropole dans la création de cet atlas. Après, nous serons certainement conviés ou pas à différentes réunions pour faire avancer les choses, et peut-être toutes les communes ne seront pas concernées, hein, je pense, par cet atlas de biodiversité, parce que toutes ne doivent pas en avoir qui soit vraiment à mettre en exergue. Monsieur Bord, vous avez assisté à une réunion hein, sur l'atlas de la biodiversité. Et donc, voilà, c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui en conseil municipal et que je vais vous demander de bien vouloir voter, donner votre avis pour, contre ou abstention.
Oui, juste. Effectivement, j'ai participé donc avec Jean-Pierre Depont à une réunion sur l'atlas de la biodiversité le 24 mars. Et donc là, la métropole nous relance. Donc, nous sommes favorables à ce que notre commune s'engage dans ce projet. Nous y sommes d'autant plus favorables que, d'une part, les communes ayant participé à l'atelier du 24 mars bénéficieront en priorité des actions mises en œuvre dans le cadre de ce projet, et d'autre part, c'est bien la métropole qui financera les actions qui seront engagées, mais les communes partenaires pourront également apporter, si elles le souhaitent, un soutien financier et ou logistique, mise à disposition de salles, près de matériel, en complément pour la mise en œuvre d'actions particulières. Ces communes, donc, faisant partie intégrante de la gouvernance du projet, seront également amenées à participer à la définition des orientations et des modalités techniques du projet, ainsi qu'à coordonner le programme d'action, partage de données notamment, communication auprès des citoyens. Personnellement, bien sûr, si vous le souhaitez, je suis prêt à poursuivre ce travail sur cette atlas.
Là, pour l'instant, nous sommes juste dans le soutien à la métropole, hein, pour l'instant. Hein. Donc, nous soutenons la candidature de Montpellier Métropole à l'appel à projet Atlas de biodiversité. Après, toutes les choses vont se mettre en route petit à petit. Il n'est pas dit que dans l'année à venir, nous ayons des choses à mettre en place. Hein. Pour l'instant, 3M pose sa candidature pour cet atlas de biodiversité communale. Ensuite, ça va être voté. Et ensuite, la métropole décidera de mettre en place cet atlas. Et à ce moment-là, peut-être que nous serons conviés et vous pourrez y aller avec M. Dupont et ceux que ça intéresse, Mme Thomas qui est dans le développement durable. Vous pourrez aller voir ce qu'il en est et en quoi nous pourrions intervenir dans cet atlas. Donc, cette délibération, je vais la soumettre donc au vote.
Vous voulez dire, pardon, c'est qu'il y a des communes déjà qui se sont engagées, comme Prades, on a vu les Gravelles, et on peut mener notamment des actions avec les enfants des écoles, et ce sont des opérations, disons, tout à fait intéressantes pour eh bien, amener les enfants peut-être à connaître les plantes, les arbres qui les entourent, donc c'est très formateur également.
C'est vrai, mais on a la chance d'avoir des enfants qui vivent quand même dans une, je vais dire, à la campagne. Ils ne sont pas dans des immeubles à Montpellier, ils ont la chance de vivre ici à Montferrier avec des grands jardins, etc. Donc je pense que nos enfants sont assez habitués à s'occuper de la nature et reconnaître certaines fleurs ou certains arbres. Alors après, bon, ce sont des enfants, donc ils ont tout à apprendre. Donc je mets au vote qui est contre. Qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Ensuite, le dernier point, c'est un point sur l'antenne 5G, pour laquelle nous avons été sollicités sur la commune de Montferrier. Donc, je vais laisser la parole à M. Chrétien. Il va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Pardon.
Merci. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder un peu la problématique de la 5G. Je crois, M. Bord, que vous aviez posé une question en conseil municipal à ce sujet qui concernait Saint-Clément et indirectement Montferrier, puisque cela jouxtait le lotissement Cobel. Nous avons effectivement été informés du déploiement d'une antenne 5G sur le boulevard de la Lironde, juste avant la clinique de la Lironde, sur un terrain privé. Et c'est vrai qu'au regard à la fois de la question question que vous aviez posée, de l'information que nous avons eue sur le déploiement de cette antenne sur notre commune, et sans aucune prétention scientifique, bien évidemment, hein, puisque je n'ai pas les compétences pour aujourd'hui dire si la 5G est néfaste ou ne l'est pas. Il nous a quand même paru important de même nous positionner, j'aime pas forcément ce terme parce que, comme je viens de le dire, je n'ai pas forcément un avis favorable ou défavorable à la 5G. En tout cas, c'est plutôt sur la méthodologie qui est employée pour déployer cette nouvelle technologie. Vous le savez, le gouvernement en a fait une priorité à l'échelon national. Les législations qui étaient quand même assez protectrices ont été modifiées afin de permettre un déploiement très très rapide. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à des situations où les communes et le maire ne sont pas partie prenante dans le déploiement des antennes 5G sur le territoire de leur commune. C'est surtout ça qui nous pose problème. Donc c'est pour ça que ce soir nous vous proposons cette motion qui, encore une fois, n'a pas vocation à trancher le débat scientifique sur les bienfaits ou pas de la 5G sur divers aspects, hein, que ce soit sur la santé, environnementale, voilà. Je pense que chacun est libre d'avoir ses propres opinions. Toutes les études ne sont pas encore disponibles. Je pense que nous n'aurions pas intérêt vis-à-vis de nos administrés à être clairement opposés ou clairement favorables. C'est simplement que nous souhaitons pouvoir, enfin nous aimerions que les maires retrouvent un pouvoir, en tout cas d'être concertés dans le cadre du déploiement de ces antennes 5G. C'est pourquoi nous vous proposons la motion qui vous a été transmise. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations?
Oui, interrogations. Il est quand même anormal qu'aujourd'hui, l'on constate que le pouvoir des maires, les décisions du conseil municipal soient grignotées, pour ne pas dire plus, qui par l'État, qui par la métropole, etc. Donc, on entend lors des élections que les maires, les conseils municipaux sont la base de la démocratie, hein, on entend ça, et puis dans la réalité, les choses se passent différemment, puisque, on l'a vu pour d'autres projets, nous n'avons pas ou guère de mots à dire, et là, en l'occurrence, même pas, puisque c'est l'État qui tranche, disons, l'implantation de ces antennes.
Voilà. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Je vous remercie pour cette adoption de la motion, parce que ça nous permet, nous, en tous les cas, de prendre date sur ces antennes 5G que nous verrons certainement fleurir dans notre village, hein, je le dis tout de suite. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que l'antenne de Bayard-Clay a vu sa taille augmenter. Ils ont rajouté, certainement des opérateurs se sont installés et ont déjà rajouté un étage sur l'antenne de Bayard-Clay. Demain, nous aurons ces antennes 5G qui sont certes plus basses, plus petites, mais comme ces antennes travaillent avec des petites ondes de 3,5 GHz, il leur faut donc beaucoup d'antennes sur le village, sur les différentes communes, pour pouvoir irriguer au maximum. Donc voilà, aujourd'hui, il faut cette antenne du parc de la Lironde. Je ne pense pas qu'elle soit, enfin, je donne mon avis personnel, je ne pense pas qu'elle soit nécessaire. Elle va, au niveau du paysage, déjà, je pense au niveau environnemental, je pense que c'est pas extraordinaire. Nous ne sommes pas très loin de l'aqueduc. Et nous allons avoir cette antenne métallique qui va monter à 18 mètres de haut. C'est quand même assez extraordinaire. Alors bon, peut-être qu'on arrivera, on va essayer de négocier avec eux, voir si on peut arriver à la supprimer. Mais ce sont des opérateurs qui sont très très forts et ils sont toujours à la limite de tout ce qu'ils peuvent faire et les maires n'ont pas beaucoup de pouvoir pour s'opposer à l'installation de ces antennes dans les différents villages. Donc c'est pour ça qu'on tenait absolument à notifier cette motion ce soir pour vraiment positionner la commune. Après, on utilisera tout notre pouvoir pour essayer de ne pas avoir cet emplacement d'antenne 5G sur la commune. Voilà. Merci pour ce vote. Nous allons passer aux questions diverses. Donc, M. Borde, vous avez la parole.
Oui, merci. Donc, première question concerne l'éclairage public. Après l'enquête que nous avons lancée sur l'éclairage public sur la commune, nous avons mis en ligne le résultat récemment. Je vous invite à prendre connaissance sur notre site Montferrier Ensemble. Face aux crises énergétiques et climatiques qui touchent notre planète et donc notre commune, sécheresse, énergie de plus en plus chère, etc., nous vous demandons d'intervenir de manière plus efficace afin de participer à minimiser les impacts de ces crises. Alors, c'est bien que la métropole a sa compétence là-dedans. Je pense que la commune peut également essayer d'influencer ou de donner son avis. Alors, et ce, en faisant installer des éclairages LED partout et baisser l'intensité la nuit dans certains quartiers, comme vous l'avez indiqué lors du conseil municipal du 3 mars 2022, et je regrette, mais les ampoules LED, ce n'est pas complètement opératoire actuellement. Il y a beaucoup d'ampoules qui ne sont pas LED. J'ai fait le tour avec